Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique sur Radio Présence, bienvenue sur Point d'Orgue. Alors la semaine dernière, si vous vous souvenez bien, nous avons eu le plaisir d'entendre des jeunes enfants qui chantent de la musique liturgique, des maîtrisiens, qui nous avaient dit un petit peu ce qu'ils aimaient dans la musique, dans le fait de chanter pour la liturgie. Et vous savez, c'est un peu le fil conducteur que nous avons décidé d'avoir tout au long de l'Avent, c'est-à-dire que vous passiez un Avent en compagnie des enfants. Et pour continuer dans cette voie-là, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir une de mes collègues de Saint-Sernin, Cécile Capomassio, qui est la chef de cette maîtrise. Et donc je profite d'avoir des musiciens comme ça, des chefs auprès de moi, afin de pouvoir vous présenter leur travail, ce qu'ils aiment et ce qu'ils veulent mettre également en avant durant ce temps de l'Avent. Donc Cécile, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu peux nous présenter qui tu es et quel est ton parcours et finalement qu'est-ce que tu décides de faire avec cette maîtrise de Saint-Sernin ?
Je suis chef de chœur spécialisé dans les chœurs d'enfants puisque c'est cette mission qui m'occupe essentiellement depuis une dizaine d'années. J'ai dirigé plusieurs chœurs d'enfants, notamment un chœur de garçons à Narbonne à partir de 2015. Je travaille à l'école Saint-Joseph depuis une dizaine d'années maintenant. Et j'ai eu à cœur de parcourir un petit peu la France à la rencontre des principales maîtrises du territoire pour m'inspirer un petit peu, voir ce qui se faisait ailleurs et ce qui fonctionnait, ce qui pourrait nous aider à monter quelque chose d'intéressant à Toulouse. J'ai été formée en direction avec Rolandas Muleika au Conservatoire de Toulouse, avec qui j'ai obtenu mon diplôme d'études musicales en 2015, puis mon diplôme d'État l'année dernière. Voilà, et depuis maintenant 2 ans, je travaille à Saint-Sernin comme chef de chœur avec en fait le chœur d'enfants de l'école Saint-Joseph-Lassalle de Toulouse, qui sont les petits chanteurs, qui sont maintenant rattachés en tant que maîtrise de la basilique Saint-Sernin, et à ce titre se produisent environ une fois par mois à la basilique, soit pour des messes, soit pour des concerts. Que ce soit seul ou avec d'autres chœurs de la Scola, les chœurs d'adultes.
Alors c'est un super projet, mais pourquoi finalement est-ce que tu as décidé, est-ce que tu as mis en place une maîtrise à Saint-Sernin? Parce qu'il y avait déjà des chœurs, il y avait déjà du monde qui chantait, et on se demande, bon, quelle pourrait être la place d'un chœur d'enfant? Est-ce que ça a sa place? Est-ce que dans l'histoire de Saint-Sernin, il y a déjà eu ça? Est-ce que, voilà, comment est-ce que ça s'inscrit dans la tradition musicale de Saint-Sernin, cette maîtrise?
Alors il y avait une double volonté, déjà de ma part, de trouver un endroit où les enfants puissent chanter et qui invite à faire du beau. Et le cadre de Saint-Sernin s'y prête beaucoup plus que d'autres églises qui étaient plus près de l'école mais qui n'avaient pas cette envergure. Et de l'autre côté, le père Bogdan, curé de Saint-Sernin, ainsi que une partie des chefs qui étaient déjà en place à Saint-Sernin avaient envie d'intégrer ces enfants dans le projet musical qui était en train de se monter avec la Scola. Il s'agit également d'une volonté historique puisqu'il y avait toujours eu une maîtrise à Saint-Sernin depuis, je dirais, le Moyen-Âge. Je n'ai pas la date exacte, mais pendant de nombreux siècles, il y a eu des enfants qui chantaient à Saint-Sernin, tout comme il y avait une autre maîtrise à la cathédrale Saint-Étienne qui est toujours en place. Et les deux avaient une mission particulière, chacun dans son lieu d'exercice, et à la fois se retrouver pour des grands événements dans la ville, des grandes processions, lors des fêtes liturgiques importantes. Il nous tenait à cœur de remonter cette maîtrise de la basilique, déjà parce que c'est un lieu où ça s'y prête vraiment, et puis c'est un patrimoine historique, immatériel, artistique, avec aussi de la musique derrière, que soit qu'on l'on a retrouvé, soit qu'il faudrait retrouver des partitions du 16e, 17e siècle, du 18e siècle, qui avaient été créées pour la maîtrise de Saint-Sernin, qui avait un très haut niveau à cette époque-là, et que nous avons à cœur de remettre sur pied le plus vite possible.
Et alors, il y a quelque chose qui m'interroge. Toi, tu es une musicienne quand même assez chevronnée, et on peut toujours se poser la question, quelle est la pertinence de faire chanter des enfants dans une église, dans la mesure où ils auront moins de technique vocale que leurs confrères adultes, et qui seront capables techniquement de faire des choses peut-être beaucoup plus abouties? Alors pourquoi finalement il y a cette tradition de faire chanter les enfants, et pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire, musicalement j'entends, de faire chanter des enfants?
Alors la tradition remonte au Moyen-Âge, où à cette époque-là, on n'avait pas le droit de faire chanter des femmes ou des jeunes filles dans les églises, dans le chœur des églises. Seuls les hommes pouvaient y pénétrer. Et donc, pour avoir des chœurs à voix, à quatre voix mixtes, c'est-à-dire soprano, alto, ténor, basse, on faisait appel à des jeunes garçons. Et c'est de là que vient la tradition des chœurs de garçons, et qu'on en a perpétué aujourd'hui avec ces chœurs d'enfants. À Saint-Sernin, on n'a pas encore un niveau qui rivalise avec celui des adultes, mais en regardant d'autres maîtrises en France ou en Europe, on constate qu'en formant les enfants avec vraiment une formation qui, au quotidien, une technique vocale, vraiment une formation très riche, on peut avoir, avec des enfants de 10, 12, 14 ans, avant la mue en fait, un niveau équivalent à celui des adultes, voire meilleur quand ils sont vraiment dans une formation d'excellence. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on peut arriver à rivaliser avec un niveau professionnel avec des enfants d'âge scolaire.
Eh bien, puisque c'est ça, peut-être qu'il serait intéressant d'écouter certains de ces extraits. Alors, je crois que tu es venu avec quelques propositions musicales. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors, j'ai choisi trois extraits qui sont vraiment typiques de cette période de l'Avent, qui sont ancrés dans la liturgie, ce que vous pouvez entendre dans vos paroisses, que ce soit soit des cantiques où vous joignez vos voix à celles du cœur, soit des cantiques qui sont peut-être un peu plus difficiles et que vous juste écoutez pour porter vos prières, mais trois chants qui sont vraiment caractéristiques de cette période de l'Avent et de l'attente. Et particularité, ils vont tous être chantés par des chœurs d'enfants français ou européens de niveau assez exceptionnel pour certains.
Alors, donc, mesdames et messieurs, chers auditeurs, je vous laisse écouter le premier extrait proposé par Cécile. Il s'agit d'un chant que vous connaissez bien, « Vienne la rosée », qui est harmonisé par Kenel. C'est la maîtrise de Sainte-Anne Doré qui la chante. Merci beaucoup Cécile pour cette découverte. C'est effectivement assez atypique d'entendre des harmonies pareilles. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu brièvement de ce morceau? Pourquoi est-ce que tu l'as choisi?
Je l'ai choisi parce que je suis tombée en admiration devant cette pièce il y a quelques années en la découvrant. On a un assez gros contraste entre la partie d'orgue qui est très moderne, mais si vous le réécoutez, vous constaterez peut-être que ça fait penser à des constellations d'étoiles et à cette étoile qui va guider les mages et les bergers jusqu'à la crèche. Et puis le travail de la mélodie toute simple de Vienne la Rosée est traité, comme le font beaucoup de compositeurs anglais, à l'unisson, puis en polyphonie, puis avec ce grand contrechant qui vient par-dessus la mélodie. Et enfin, en canon, différents canons à différentes vitesses qui se superposent et qui mettent un petit peu de confusion dans cette attente de Noël.
Alors, chers auditeurs, on vous rappelle que cette émission est en podcast, donc si vous voulez réécouter ces morceaux, on vous invite à le faire. Vous pouvez également les découvrir ou découvrir d'autres versions de Vienne la Rosée qui sont tout aussi magnifiques les unes que les autres. Alors maintenant, tu nous proposes un deuxième extrait qui est extrêmement intéressant. Il s'agit du Rorate Caeli. Alors, la traduction du texte du chant que vous allez entendre, c'est « Cieux, répandez votre rosée, que des nuées descendent le salut. Que s'ouvre la terre et qu'elle enfante le Sauveur. » C'est l'introïte de la messe du quatrième dimanche de l'Avent. Et alors tu nous proposes une version assez spéciale, là aussi, qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Alors il s'agit de la version de Schütz qui a écrit pour trois voix mixtes, donc il y a deux voix de soprano et une voix de basse, qui sera chantée par des solistes, donc des voix de garçons d'un célèbre chœur allemand qui s'appelle le chœur de garçons de Tölz. Et le travail de Schütz est vraiment remarquable sur cette pièce puisque presque chaque mot est illustré musicalement. On commence avec un motif descendant, sur répandez votre rosée, rorate caeli de super, où on va entendre les gouttes, presque les gouttes de musique, les gouttes de rosée qui descendent, une, puis deux, puis une infinité de gouttes qui se suivent et qui font une sorte de pluie. Et ensuite, on passe à un mot qui va être vraiment aussi très expressif, c'est germinette, qui fait penser à la germination. Et vous allez voir que ce thème-là vient du sol, et on voit pousser, on voit naître ce sauveur, et exactement de la même manière, une petite voix, puis une autre, puis toutes les voix qui se répondent. Voilà, donc si vous prêtez attention, vraiment c'est un travail remarquable, un peu un travail d'orfèvre qu'a fait Schütz en à peine 3 minutes de vous décrire presque un tableau pictural complet.
Eh bien, chers auditeurs, maintenant on va écouter cette magnifique version du Rorate Caeli de Schütz.
Et nubes pluant ius.
Là aussi, pour moi, c'est une magnifique découverte. Je ne connaissais pas du tout ce morceau. Merci Cécile. J'espère que vous aussi, chers auditeurs, vous profitez bien de la belle musique qui vous est offerte. Il y a effectivement quelque chose d'assez incroyable dans ce morceau. Donc, que Cécile a souligné, c'est cette espèce de double mouvement, le côté descendant, de la rosée qui descend, donc finalement l'idée de l'incarnation, hein. Et puis le côté germinal, le côté humus finalement, donc celui qui vient de la terre, donc qui s'élève, qui va croître. Tout le mystère finalement de la naissance du Christ est résumé ici en musique. C'est extraordinaire, c'est de la très très belle musique en plus de cela. Merci pour cette découverte, Cécile. Alors maintenant, on va passer peut-être à notre dernier extrait, puisque le temps passe toujours vite, hein, sur Point d'Orgue. Et donc, qu'est-ce que tu nous proposes cette fois-ci, Cécile, et pourquoi?
Alors, j'ai choisi un grand classique qui devrait parler à beaucoup d'entre vous. Il s'agit de Venez, divin Messie.
Et alors, pourquoi est-ce que cette version va être plus spéciale qu'une autre? Parce que Venez du divin Messie, c'est vrai que, sans vouloir te faire offense, on l'a tous entendu 10 000 fois. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait le réentendre une fois de plus?
Tout d'abord parce que cette harmonisation est assez inédite. Il s'agit de Yves Castagné, qui est organiste à Notre-Dame de Paris, qui a revisité un petit peu ce cantique de Noël, tout en gardant l'esprit initial et assez traditionnel. Il y a ajouté des harmonies assez modernes, un peu dissonantes. Et puis, en cherchant dans différentes versions de Venez divin Messie chantée par des maîtrises, je suis tombée sur celle-là qui est assez intéressante puisqu'il s'agit de chœurs de jeunes en fait, par rapport aux deux autres extraits que nous avons entendus qui sont des maîtrises avec des voix d'enfants assez jeunes, assez fraîches. Là, il s'agit de la maîtrise de Radio France et de la maîtrise de Notre-Dame de Paris qui ont choisi d'unir leurs chœurs de jeunes. Et donc, on a à la fois un chœur qui est conséquent en effectif et des jeunes qui chantent dans une maîtrise depuis un certain nombre d'années, voire qui sont arrivés à l'âge adulte, donc avec des voix assez mûres.
Et donc, ce que tu me disais, c'est, pour reprendre peut-être certains termes, l'harmonisation, c'est effectivement ces couleurs qu'on arrive à avoir dans la musicalité qui font que, malgré une mélodie qui est connue, archi connue, vous avez un remplissage qui se fait différemment. C'est également la boucle sera bouclée, puisque c'est un peu ce que vous avez pu entendre sur le premier extrait avec cette mélodie de Vienne la Rosée que vous connaissez, et une harmonisation qui, là aussi, a été un travail considérable de la part du compositeur. Alors, chers auditeurs, je vous propose, sans plus attendre, d'écouter cette nouvelle version du Venez divin Messie proposée par Yves Castagné et les maîtrises conjointes de Notre-Dame de Paris ainsi que celle de Radio France. grand final pour la naissance du Sauveur, ça me semble être tout à fait approprié. Là aussi, c'est une magnifique version par ses voix. Et effectivement, un petit peu plus mature avec les chœurs mixtes. Les voix sont plus mélangées, les filles et les garçons chantent. Donc, c'est peut-être ce qui apporte cette couleur également différente dans l'interprétation. Peut-être que tu peux nous dire quelque chose sur cette interprétation. Pourquoi est-ce qu'elle te plaît?
Oui, j'ajouterais que souvent on entend une version un peu tonitruante, un peu pompière de ce Veni Divin Messi. Là, la joie est toute contenue, malgré la puissance du chœur et des grandes orgues, on a pas une sobriété, mais une retenue un petit peu dans le discours. Et du coup, c'est une version qu'on n'a pas l'habitude d'entendre de cette façon.
Moi, ça me rappelle un petit peu, enfin, chers auditeurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de l'Avent, on avait vu quelques morceaux, notamment le Oh Magnum Mysterium, qui commence toujours un petit peu de cette manière, on sait pas ce qui se passe, etc. Regardez chez Poulenc, regardez chez Bousteau, etc. Et finalement, jusqu'à l'Alléluia finale qui caractérise la naissance du Sauveur, eh bien, on a cette joie immense qui arrive, et je trouve que finalement, comme tu le dis, Cécile, on est exactement dans le même schéma. On a ce Veni Divin Messi qui vient de loin, peut-être comme les bergers qui s'interrogent. Et finalement, avec cet outil de l'orgue majestueux et puis ces chœurs qui s'époumonnent, on a véritablement l'impression de la naissance et de la joie du Christ. Donc je trouve que c'est en adéquation totalement avec ces chants de Noël absolument incroyables. Bon, mes chers auditeurs, cette émission touche à sa fin. Merci infiniment Cécile
avec
d'être
plaisir.
Venue et de nous avoir raconté de la belle histoire en musique. Chers auditeurs, il me reste à vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël, puisque la prochaine émission se tiendra après Noël. Mais voilà un cadeau que je vous offre. On va continuer de voir du répertoire de Noël avec Cécile et on aura le plaisir de vous retrouver pour de nouveaux morceaux et de la nouvelle musique. Joyeux Noël à tous et à toutes.